corps.
Tiens.
Fait un bonjour en ouvrant les bras. Est-ce que vous l'avez senti? Bonjour!
Ah, oui.
J'ai senti. Ah.
Une espèce de lancée de thorax comme ça. Vous êtes dans le troisième épisode de King Khan, l'intégrale de la filmographie de Shah Rukh Khan. C'est une montagne, c'est un Everest. Avec moi, toujours la Dream Team. Amandine, comment ça va?
Ça va, j'ai sorti mes petits piolets. Nous montons, nous montons, nous montons.
Très bien. Clem?
Eh bien, ça va très bien. En plus, la qualité commence à monter aussi avec nous, donc tout va bien.
Parfait. Mathieu ?
Ah, c'était un beau col à monter, oui, sur cet épisode, quand même. Moi, j'étais content. Oui.
Très, très, très belle imitation d'alpiniste. Anouk ?
Rien contre les films, juste je suis extrêmement déconcentrée car je suis en train de déménager, donc je suis dans les cartons, donc je m'excuse auprès des auditeuristes et des films, car je n'étais pas moi-même à mon top, même si Shah Rukh est toujours au top.
Arrête, tu es superbe. On va commencer toujours par un petit point biographique de la vie de Shah Rukh Khan, toujours tiré, traduit, condensé de la biographie King of Bollywood de Anupama Chopra, qui est, mais franchement, sans être déstabilisant, la seule source d'infos sur la vie de Shah Rukh Khan. Donc voilà, on fait avec. Shah Rukh Khan remporte son premier Filmfare Award. Les Filmfare Awards, ce sont les Oscars indiens, Hindi. En 1993, il est couronné de la statuette de meilleur espoir pour Divana. Et à partir de là, il gagnera quasiment tous les ans. Dès l'année suivante, il remporte le trophée de meilleur acteur pour Bazigar, dont nous parlerons tout à l'heure. Au moment où SRK arrive dans son giron, Bollywood est dans une phase de transition. C'est une industrie qui est à la fois arc-boutée sur ses vieilles hiérarchies et ses vieux codes, hantée par des accointances avec des businessmen louches et des mafieux. Anupama Chopra, donc l'autrice, le dit dans son ouvrage, je cite, « Le cliché d'un producteur était celui d'un homme douteux en costume de safari blanc qui chic du pan et trimballe toujours une mallette remplie d'argent. » Amandine, est-ce que tu valides cette image? Est-ce que ça correspond à l'idée que tu as de l'industrie de Bollywood de cette époque-là?
En tout cas, je ne sais pas si... Enfin, je valide, c'est très compliqué, c'est un peu touchy, mais en tout cas, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on retrouve très souvent dans l'imaginaire des années 90, avec des vrais blockbusters qui rapportent beaucoup d'argent, des stars émergentes très puissantes. Et il y a des anecdotes qui circulent. L'une des plus connues, celle qui me fait le plus rire, c'était l'idée que les architectes qui construisaient les immenses maisons des stars étaient obligés de fabriquer des faux plafonds pour planquer les billets parce que on annonçait un cachet par l'acteur et puis en fait il y avait de l'argent au black qui circulait. Donc il y a tout cet imaginaire en fait effectivement d'un argent sale qui rentre dans le cinéma. En l'occurrence, l'un des aspects sur lequel on est un petit peu plus certain, c'est que dans les années 90, il n'y a pas de moyens pour les réalisateurs et pour les studios de par exemple faire un prêt à la banque s'il voulait financer un film, puisque l'industrie n'était pas reconnue comme étant un endroit où on pouvait investir. Voilà. Donc il y a effectivement parfois un décalage entre le budget d'un film et l'idée de d'où vient l'argent, en fait. D'où vient le, voilà. Donc c'est à ce moment-là qu'apparaît un peu cette image de la mafia, notamment celle de Bombay, de la mafia qui financerait le cinéma, qui financerait les cachets des stars et qui financerait en fait cet univers glamour de Bollywood. Donc là, il y a pas mal de petites études qui sont sorties, mais bon, comme toujours, lorsqu'on travaille à la fois sur le cinéma indien et sur la mafia, c'est pas non plus la zone où on trouve des sources les plus fiables. Mais en tout cas, on sait que il y a des écarts. Voilà, il y a des écarts importants entre un enrichissement extrêmement rapide de certains studios et de certaines stars et en fait d'argent sale qui serait venu aider. La loi va changer au début des années 2000 autoriser l'industrie à passer par les banques pour le financement, mais ça ne s'est jamais vraiment fait parce que bah voilà, il y a d'autres façons de faire qui sont ancrées. Mais on sait aussi qu'il y a des réalisateurs, des acteurs qui ont été menacés par la mafia. C'est le cas par exemple du réalisateur Rakesh Roshan hein, qui a échappé de peu à une tentative d'assassinat. Donc ces liens, ils existent très certainement. Après, je ne m'avancerai pas à donner des noms, des chiffres, des machins, parce que je n'ai toujours pas vraiment croisé de sources hyper fiables. Mais les années 90, c'est à la fois les gros blockbusters de Bollywood et une mafia surpuissante qui a beaucoup d'argent à faire fructifier. Donc le cinéma paraît naturellement un endroit où le faire.
Ça devait sortir à la base fin janvier, mais l'éditeur Spectrum peaufine, met encore la main à un coffret consacré au réalisateur d'origine Telugu, mais qui a bossé dans le cinéma indie, Ram Gopal Varma, qui doit sortir tous ses films de gangsters, avec un livre qui s'appelle Bullets Over Bombay, de Uday Bhatia, et qui revient sur, qui parle surtout du film Satya, de Ram Gopal Varma, mais de toute la mythologie qu'il y a autour, et des liens, justement, notamment d'un des producteurs avec la mafia, des liens entretenus par Bollywood avec la mafia. Après, il y a des affaires très très connues, comme les liens, par exemple, de l'acteur Sanjay Dutt, qui est allé en prison, hein, d'ailleurs, pour ses connexions avec le milieu, notamment le grand gangster, grand parrain absolument figure du banditisme complètement dingue, qui s'appelle Dawood Ibrahim, qui est toujours en cavale, je crois. Enfin, voilà, c'est des histoires qui remontent très 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 loin en arrière. Aussi, ce que dit Anupama Chopra, c'est que l'industrie est vraiment dans un stade où... il y a toutes les vieilles dynasties qui continuent à garder leur place, avec un système de hiérarchie très empreint de culture punjabi du Nord, et voilà, une faune à côté de ça qui est complètement interlope, en fait, et qui ne fait que recycler encore les mêmes recettes. Quand Shah Rukh arrive, ça patine, quoi. Il y a encore des blockbusters, mais c'est un moment créativement, artistiquement, qui est très compliqué, quoi.
Et puis, c'est aussi un moment où il y a d'autres activités qui intéressent ce milieu mafieux. La distribution des films, mais aussi les copies pirates, toute une économie, si je peux dire, autour du cinéma, qui va du CD, de la cassette, etc., qui intéresse ces milieux-là. Dans le cas de Sanjay Dutt, c'était aussi des questions de cacher des armes. Hein. Ce n'était pas que vendre trois films. Il y a des connexions anciennes, ou alors des photos, très souvent c'est des photos des stars qui participent à l'anniversaire de tel ou tel parrain, de tel ou tel enfant de tel ou tel parrain. Donc il y a vraiment tout ce milieu là et comme on est, j'ai l'impression que les gens nous écoutent et lisent les livres qu'on conseille. Hein, je crois. Vous avez ça arrive des fois, vous avez le très bon gros polar thriller qui est hyper intéressant, qui s'appelle Le Seigneur de Bombay, par exemple.
Ouais.
Qui vient, quelque part, suivre cet univers de Vikram Chandra, pardon, qui vient suivre cet univers mafieux de Bombay. Et en plus, c'est une super jolie couverture dorée, ce qui ne gâche rien.
Une superbe adaptation d'Anurag Kashyap derrière, en plus, si on veut prolonger le plaisir.
Tout à fait, en série. Je ne sais même pas si c'est toujours sur Netflix, parce que Netflix, ça va, ça vient. Mais
normalement, c'est resté. Il n'y a que deux saisons, ça se fait assez vite. C'était resté sur le catalogue, normalement.
C'est voilà le paysage dans lequel Shah Rukh Khan arrive. Quand il arrive à Bollywood, il va à l'encontre d'à peu près tous les codes, comme tu le faisais remarquer très justement la dernière fois, Amandine. Il s'affiche avec sa femme, là où les jeunes premiers ne le font pas forcément, pour entretenir le désir des jeunes spectatrices. L'autrice cite l'exemple d'Amir Khan, qui a commencé sa carrière en 1988, quelques années, Shah Rukh était à la télévision à ce moment-là, mais lui était déjà au cinéma, et Amir Khan, à ses débuts, cache son statut marital. Il était marié depuis quelques années avec son épouse, et il a fait croire qu'il était célibataire. Surtout, Shah Rukh Khan ne se plie pas au code en vigueur, et amène avec lui son caractère pas facile, râleur mais troupier, divertissant mais égoïste, voire dangereusement bille en tête. Il peut s'emporter sur un plateau de tournage, contre le réalisateur, parfois. Mais dans ses jeunes années de célébrité, c'est surtout les journalistes qui font les frais de ses sautes d'humeur. Et quand un journaliste lui parle de sa vie privée, Shah Rukh Khan lui dit qu'il va lui démolir la gueule. Quand un autre le questionne sur son orientation sexuelle, il lui dit d'enlever son pantalon pour qu'il fasse l'amour tout de suite. Voilà, il est impulsif. Il est taquin. Il est taquin. Mais la première grosse affaire arrive justement sur le premier film que nous allons aborder aujourd'hui, Maya Memsab, un film de Ketan Mehta, avec dans le rôle titre son épouse, Dipa Sahi. Des rumeurs avaient tourné sur le caractère explicite d'une scène entre l'actrice et Shah Rukh Khan. Et quelques mois avant la sortie du film, un journal un peu tabloïd qui s'appelle Ciné Blitz sort une histoire selon laquelle le réalisateur aurait demandé à sa femme et à Shah Rukh Khan de préparer leur scène Tori en passant une nuit ensemble la veille dans un hôtel, ce que le comédien aurait caché à sa femme Gauri. Voilà. Je vous laisse imaginer la réaction de Shah Rukh, qui n'est que très peu jouasse. Comme il se doit, dans ce genre d'article, c'est pas signé. Et donc Shah Rukh, en fait, devient persuadé que l'article est signé d'un journaliste qu'il a croisé plusieurs fois, qui s'appelle Keith DeCosta. Il l'appelle, il le menace de venir chez lui lui casser la gueule. Et le lendemain, il débarque chez lui et il lui hurle dessus devant ses parents. Alors, je cite... C'est du verbatim de Shah Rukh de l'époque. Espèce de sale trou du cul, comment est-ce que tu as pu écrire toutes ces merdes sur moi et sur une actrice aussi respectée que Dipa Sahi ? Pourquoi tu n'écrirais pas sur comment je vais te baiser devant ton père et ta mère ? Fin de citation. Il y a aussi apparemment menace de castration. DeCosta dépose plainte sur les conseils de son rédacteur en chef, mais Shah Rukh est au courant, mais il continue de l'appeler, de le menacer. La police finit par embarquer l'acteur. Et sans trop rien faire que le retenir un moment, en fait. Il signe des autographes à quelques flics. Les flics lui disent bah, « Vous avez droit à un appel ». Shah Rukh appelle DeCosta et le menace de saloperie une nouvelle fois, en fait. Mais Shah Rukh en reste là. 2 ans plus tard, une journaliste de Cinéblitz arrive à convaincre Shah Rukh que Keith DeCosta n'a pas écrit l'article et Shah Rukh de se confondre en excuses auprès du journaliste et de ses parents. Voilà, Anupama Chopra, donc l'autrice de King of Bollywood, interprète cet épisode comme le moment où Shah Rukh Khan se détourne des scènes intimes, parce qu'effectivement, il y a une scène assez, assez chaude, assez sensuelle dans Maya Mansab, et c'est la dernière fois que ça arrive, enfin, une des dernières fois où ça arrivera, il ne va même plus gratifier ses partenaires romantiques à l'écran d'un baiser. Par contre, il va embrasser des rôles plus sombres, plus violents, et dans le même temps, peu à peu, baisser de plusieurs crans son arrogance comme son impétuosité pour devenir Shah Rukh et pour réserver ses sautes d'humeur dans ses rôles à l'écran. Donc, Maya Mansab de Ketan Mehta, c'est une lointaine adaptation de Madame Bovary de Gustave Flaubert, où la pétillante femme d'un médecin quelconque trompe son désarroi dans les bras de 2 amants, dont un... Tout va bien ? Quelqu'un est tombé ?
Non. Non, ça va ? C'est Anouk qui fait ses cartons.
Non, c'était un bruit de chaise, je suis allée me chercher un mouchoir. Faites la magie du podcast, continuez François.
D'accord, bah, écoute, je suis ravi que les menaces de Shah Rukh te fassent pleurer. Alors, où j'en suis moi? Oui. Voilà. Elle trompe son désarroi dans les bras de 2 amants, dont un Shah Rukh tout maladroit, puis flamboyant de beauté, ce plan où il lui offre des fleurs en la dévoguant du... Oh là, putain, je me trouble.
Attends, des fleurs en plastique? En plastique.
Ah oui, il lui offre des fleurs. Ah oui, c'est vrai. Mais non, pas d'odeur. Il lui offre des fleurs en plastique en la dévorant du regard. Je m'en suis pas remis. Clem, dans notre fil de conversation, t'étais rendu à la moitié. T'avais l'air de sauver le film sur l'onctueux prétexte d'y voir à tout le moins un peu de mise en scène. Qu'est-ce qu'il en est maintenant que tu as fini le film?
Alors, c'est vrai qu'il en faut pas beaucoup pour passer pour le plus enthousiaste de la bande sur cette sélection. Effectivement, il y a de la mise en scène. Je dirais que par rapport à l'épisode précédent, où vraiment on était essentiellement sur du téléfilm en termes de cinématographie, là, il y a de la mise en scène pour une raison toute simple, c'est que c'est Ketan Mehta qui est derrière la caméra, et que Ketan Mehta, c'est pas n'importe qui. Moi, c'est un film que j'ai regardé assez rapidement quand j'ai commencé à explorer la filmographie de Shah Rukh Khan, Maya Mansab, donc que j'ai revu pour l'occasion. Pour une raison toute simple, c'est que c'est un cinéaste, Ketan Mehta, que j'aime beaucoup, et en plus une adaptation d'un roman que j'aime énormément. Madame Bovary, ça a été un des tout premiers romans que j'ai lus vers mes 12-13 ans. J'ai trouvé ça par hasard sur, pendant une période de vacances où j'étais tout seul avec mes parents. C'était affreux, il fallait passer le temps. Et j'ai dévoré ça en 4 jours. Et j'ai trouvé ça fascinant. Et vraiment, une grande partie de mon amour de la littérature est venue de ce roman-là. Donc c'est un récit que j'avais vraiment hâte de voir mis en scène, de voir ce qu'une adaptation indienne pouvait donner. Ketan Mehta, même si je trouve que ses œuvres les plus intéressantes vont venir à bien après, quelques années avant Mayamem Sab, il a quand même fait Mirch Masala, qui est une œuvre fabuleuse. Vraiment, si vous avez l'occasion de découvrir ça, c'est le petit conseil du soir. Et donc là, il s'attaque à un monument de la littérature et on le retrouve sur quelques séquences. Malheureusement, c'est à peu près tout. J'aime énormément le générique de début. Voilà, je trouve que toute la mise en scène du générique me plaît beaucoup. Il y a quelques séquences par-ci par-là qui vont un petit peu sauver le truc. Pour le reste, on le voit pas trop.
Dipasai quand même, elle est super.
Il y a Dipasai qui fait partie vraiment de ce qui sauve quand même le film, qui livre une performance vraiment assez forte. Et pour moi, ce qui sauve le film, c'est les quelques moments où on sent qu'il y a une tentative de propos qui fait sens. Je pense notamment à une séquence où la belle-mère débarque et rencontre Dipasai pour la première fois. Et on a vraiment une sorte de leçon de ce que c'est la charge mentale pour une jeune mariée. Avec la belle-mère qui, dès qu'elle la rencontre, n'arrête pas de lui faire des reproches, que ce soit sur sa façon de s'habiller, sur la manière dont elle s'occupe de la maison, le fait qu'elle n'ait pas fait la cuisine, le fait qu'il n'y ait pas un temple dans la maison. Enfin, vraiment, on a quelques petits moments comme ça que je trouve vraiment brillants sur ce que c'est la condition d'être une femme au foyer en Inde dans ces années-là. Malheureusement, le reste du temps, c'est très long. Le rythme pour un film qui fait 2h10 de mémoire, donc c'est peut-être le plus court de la sélection et pourtant le temps ressenti n'est pas le même. Ça passe vraiment au ralenti. L'acteur qui joue le mari, Farouk Sheikh, c'est un vide béant de charisme. C'est quand même...
C'est un peu le principe.
Ah oui, c'est le principe.
Oui, mais c'est trop.
C'est trop. Là, c'est du méthode acting à ce niveau-là. Quoi. Il a pris son absence de charisme un peu trop à cœur. Et puis aussi les détectives qui ponctuent l'histoire, parce qu'on a quand même un côté Sherlock Holmes de Wish avec deux détectives qui posent des questions. C'est compliqué, ces passages-là. Après, pour Charouk, il faut attendre 40 minutes quand même avant qu'il arrive. Donc ça rend l'attente encore plus longue. On peut pas dire qu'il ait un rôle particulièrement marquant. Il fait ce qu'il peut, mais voilà. C'est très inégal, c'est inabouti. Mais je dirais que ça m'a fait plaisir la surprise de le revoir et de me rappeler qu'il y a quand même quelques moments où on se rappelle le qui est derrière la caméra. Et on a une actrice qui illumine un peu l'écran. Pour le reste, c'est peut-être pas nécessaire non plus, à moins d'être complétiste, d'aller revoir ça.
J'aime bien. Toujours la leçon de toutes ces intégrales, c'est non, mais le regardez pas.
Ne vous faites pas de mal.
Nous, on est obligés, mais pas vous. Donc arrêtez. C'est bien. C'est une bonne morale. Anouk, Madame Bovary.
Eh bien, si c'était ça notre plus enthousiaste, c'est quand même petit. Moi, j'ai peut-être pas exprimé mon enthousiasme dans le groupe chat, mais parce que j'étais occupée à voir le film, figurez-vous, parce que moi, j'ai bien aimé. Déjà, le générique du début, le seul truc que je me souviens, c'est que c'était une coproduction britannique et française. Et donc, j'ai fait mes petits calculs et il remercie le ministère des Affaires étrangères. Donc, c'est un film qu'on doit à Roland Dumas. Mais pour lequel, sans doute, Alain Juppé aura récolté les lauriers. Donc voilà, je pense que c'est important de le remettre aussi dans le contexte. Non, alors moi, j'ai vraiment trouvé que le film se tenait bien, ça m'a intéressée, l'actrice, effectivement, qui est quand même... Là, sur Wikipédia, on voit une affiche où il y a Shah Rukh Khan, alors j'imagine que c'est parce que c'est sorti plus tard, l'affiche, ou alors, dans un pays où Shah Rukh était plus connu. Mais c'est quand même un peu scandale, parce que c'est vraiment Dipasai, l'héroïne. Elle est passionnante, elle est énervante, elle est flippante, elle est vraiment incroyable. Shah Rukh, je suis pas tout à fait d'accord qu'il fait ce qu'il peut. Là, il a pas calibré comme il faut. Il y a quand même une dogface incroyable sur une scène, donc avant la scène un peu chaude, où il essaye de jouer la sensualité un peu ironique, mais du coup, il tord sa bouche comme ça, et puis il fait l'animal en enlevant ses fringues. On a l'impression qu'à chaque fois qu'il en enlève, il y en a encore plus. Enfin, très étrange. Vous avez parlé des fleurs qu'il lui offre. J'ai jamais vu... Il lui offre aussi un cactus à un moment. Un cactus qui, je suis désolée, j'ai jamais vu un cactus avec une forme de pénis à ce point. Enfin, vraiment, il arrive avec son cactus, son pénis un peu... qui est là, quoi. Enfin, qui... ouais. Non, c'est vraiment... Alors, ça, c'est le personnage, hein, bien sûr. Mais aussi, en termes d'acting, on sent que... voilà, il n'était pas super à l'aise sur la sensualité. C'est pas plus mal qu'il ait arrêté par la suite. Le film n'est pas complètement subtil, ça, d'accord. Effectivement, pour exprimer que Maya est un peu en train de perdre les pédales, elle met des pantalons en cuir et des jupes en cuir. Bon, ok, d'accord. Mais j'ai beaucoup aimé le personnage, notamment du petit servant qui observe tout, qui est témoin de tout, avec ce jeu sur les cahiers et tout. Je crois que Mathieu avait eu toute une théorie sur le personnage qui a été un petit peu divulgaché à la fin. Enfin, divulgaché en tout cas, révélé à la fin, mais du coup, ça t'a donné raison. Mais en tout cas, moi, j'ai pas boudé mon plaisir sur le film. Je trouve que, alors c'est évidemment pas à la hauteur de Madame Bovary, mais ça en garde quand même l'esprit sur le côté la médiocrité. C'est pas juste la vie d'une femme au foyer, c'est aussi la vie d'une femme qui est trop belle, trop intelligente, trop tout pour son univers un peu étriqué. J'aime beaucoup son mari, moi je trouve qu'il fait exactement ce qu'il doit faire, c'est-à-dire médecin attachant mais un peu maladroit et effectivement qui manque un peu de romance et d'aventure. Franchement, non, ça fait le taf. Après, bon, c'est pas... Enfin, c'est suffisamment intelligent pour moi, on va dire. Elle voit plein de miroirs partout, donc on est effectivement dans à la fois le fantasme et l'image de soi, l'obsession de soi. Moi, ça me va, donc... Personne n'est obligé de regarder quoi que ce soit, mais franchement, celui-là, effectivement, il dure 2 heures. Moi, je ne trouve pas qu'on perd son temps.
Non, puis dis pas ça, Yves, vraiment. J'insiste. Mathieu, ta théorie ?
Oui, moi, je me range du côté d'Anouk déjà, parce que je considère que le film est un peu meilleur que... Enfin, j'ai pas boudé mon plaisir non plus, voilà. Et j'y ai vu l'esquisse d'un film de fantôme, en fait. Avec un peu de symbolique dans les plans. Et c'est vrai qu'il y a Dipa Saï, donc c'est le fantôme, c'est elle. Et elle a quelque chose de très noir dans le regard. Comment dire, elle est vraiment filmée comme une sorte de dame qui passe, quoi. Elle apparaît dans la nuit, dans le coin d'une fenêtre. On a aussi, une fois quand elle est présentée, quand elle apparaît, souvent elle est présentée à côté d'un élément aquatique. Donc ça va être de la pluie, ça va être une rigole qui coule, ça va être un torrent déchaîné. Et l'eau, c'est la métaphore de, dans la croyance hindoue en tout cas, l'eau, c'est la métaphore de l'illusion, quoi. Voilà. Et donc, c'est là que je me suis retrouvé, que les deux flics ont bousillé ma théorie. C'est qu'en fait, il se trouve qu'on a une copie où, en tout cas, c'est plutôt les sous-titreurs un peu trop zélés qui ont décidé de dire que de souligner le fait que Maya signifie l'illusion, en fait, en hindi. Voilà. Ça m'a un peu cassé ma théorie, mais néanmoins, ça veut dire que j'avais quand même un petit peu raison. Et je trouve que si on prend le film par ce bout-là, c'est un peu plus intéressant, notamment dans les premières séquences du film où en fait elle est vraiment présentée comme un être étrange en fait, qui est limite pas concret, pas humain, pas palpable, voilà. Et il y a le flic d'ailleurs dit à un moment les choses ne sont pas ce qu'elles semblent être en fait en parlant de Dipa Saï, quoi. Donc je trouve que c'est hyper intéressant cette façon d'aborder le personnage de Emma Bovary d'une certaine manière, voilà. Et ça donne une espèce de vibe un peu chelou sur le film. Et je trouve qu'on a aussi quand même un effort de mise en scène. Désolé Clément, hein, moi je trouve qu'on est, on a un peu plus de mise en scène que prévu. Et je trouve qu'on a des beaux décors aussi, dans une Inde rurale. Je trouve que c'est assez beau, des décors naturels ou pas forcément d'ailleurs. Et en plus, comme on est dans un film de fantôme, on a aussi quand même des moments assez gores. On a notamment une scène de décapitation avec du sang qui gicle sur le visage de Madame Bovary qui ne peut rien amener. Alors très bien filmé, bien monté, je trouve.
Le plan est sublime.
Voilà, donc on a quand même des choses sur lesquelles se rattraper. Après, bon, oui, en effet, on a des choses... Enfin, on est quand même sur une... pas une grammaire indigente, mais on a des moments de mou, quoi. Voilà, sur le film. Dans l'épisode précédent, avec Diwana, on a eu un Shah Rukh prêt à se scarifier le nom de sa dulcinée, alors qu'il vient juste de la rencontrer. Là, on a un Shah Rukh qui est prêt à s'immoler, alors qu'il vient à peine de rencontrer Dipa Saï. On est dans une période de Shah Rukh toxique.
Ah bah qui lui fait une scène en plus quand il s'aperçoit qu'elle est pas vierge alors qu'elle est mariée, merci bien, tu sais.
Voilà, donc je trouve qu'on est en plein sur le Shah Rukh toxique. On est vraiment là-dedans, quoi, et c'est hyper... je trouve que c'est intéressant parce que c'est, comment dire, l'idée d'avoir une méga star du cinéma bollywoodien qui en fait commence à se faire son trou avec des personnages de complètement pété du bulbe, quoi. Je trouve ça assez intéressant, voilà.
Après, c'était les années 90, Mathieu, hein. Toi-même, tu te souviens oui. que ça, c'était romantique à l'époque.
Oui,
on a
j'imagine
été détruit,
que
on a été brisé, tu vois, par notre éducation, mais voilà.
Bien
c'est
sûr,
ça,
amoureux transi, capable de tout pour se
Kurt Cobain, The Crow. Voilà.
J'ai deux autres choses pêle-mêle comme ça. Je sais pas quoi en faire, mais vraiment ça me taraude, donc j'aimerais en parler.
On a notamment une... sur les cartons d'Anouk.
On a notamment une phrase d'un des témoins qui dit: la relation entre un docteur et un chimiste est comme le citron vert et le curcuma. Moi, j'adore les allégories entre la vie et la nourriture, mais cette belle phrase, je ne l'ai jamais expliquée. Donc, si quelqu'un a des clés de compréhension, je suis preneur. Je ne sais pas du tout ce que ça veut dire. Et ensuite, on a quand même, et ça, c'était un rêve à réaliser, on a quand même Madame Bovary meets Footloose, quand même,
oui.
à un moment.
Oui,
voilà.
J'ai noté aussi.
Hein, et d'ailleurs, je prends un peu d'avance sur le reste, on est quand même sur une sélection très pop pour cet épisode, puisque oui. on a Footloose. On a un rip-off de Didi, de Khaled.
Et on a du docteur Alban.
Et on a du docteur Alban dans Vasillard. Voilà, exactement. Donc ça, je pense que c'était important de le noter.
J'étais sûr que tu aurais le vrai docteur Alban. Ah. je te respecte tellement. Amandine.
Et ben moi, demi-teinte, les amis. Parce que, comme Clem, quoi. Moi, j'ai vu le réal, je me suis dit, oulalalala, voilà le monsieur qui a quand même fait... Oli et Mirch Masala, donc deux super films dans les années 80, donc j'en attendais énormément. Et puis assez rapidement, j'ai eu un petit problème, c'est que j'arrêtais pas de dire « Ah, c'est génial, ce plan est trop beau, capture d'écran !» Et puis la seconde d'après, « Oh mon Dieu, cauchemar, fleurs en plastique, dégueulasse quoi !» Donc en fait, j'ai passé 2 heures un peu épuisantes à ne pas savoir s'il fallait aimer, pas aimer, si c'était beau, si c'était moche, si c'était intelligent, si c'était complètement con. C'est fatigant. Alors, quand même, Clem a défendu le générique de début. Donc moi, ça a été ma première capture d'écran. Il s'agit d'une magnifique lampe floue avec le coucher de soleil ou lever de soleil qui va dans la lampe floue. Là, je me suis dit, oula, audacieux comme plan d'ouverture. La moitié des spectateurs partent sur ce plan. Mais bon, première capture, j'étais bien contente. Et ensuite, si je suis tout à fait honnête, j'ai l'impression que le film se dégrade. Donc on a tout ce qui est très très beau, les plans superbes dans la première heure. Et en fait, plus on avançait, moins je prenais de capture d'écran, ce qui est un signe chez moi. Et on termine avec ma dernière capture qui est une catastrophe. C'est Madame Bovary, luminescente, en film d'horreur, avec l'enfer, quoi. Un plan dégueulasse, mais dégueulasse.
Mais Mandou, est-ce que tu penses pas que c'est une métaphore justement de l'existence même de Maya ? C'est-à-dire que... tant qu'elle est dans ses fantasmes, c'est beau. Tu vois, comme dans Madame Bovary, d'ailleurs, hein, tu vois, elle est dans son truc romantique où ils sont sur une barque. Et puis, en fait, la narration derrière te dit il y avait des flaques de rouille, ça puait, ça daubait la mort et tout. Et du coup, cette alternance, oui. jusqu'à ce que finalement la déchéance gagne, c'est exactement pour ça que la dame, elle va pas bien.
Oui, mais t'es pas obligé de faire une mise en scène dégueulasse pour ton final, quand même. Enfin, tu peux soigner un peu la chose et non pas mettre une Madame... je te remettrai le plan. C'est infect, quoi. La disparition de Madame Bovary, ça va pas du tout, du tout, du tout. Donc, il y a, comme vous l'avez relevé, hein, les plans de décapitation magnifiques, le sang qui se dépose sur elle avec son bindi, son sari. Et surtout, au début, Mathieu disait parler des décors. En fait, le décor du début est incroyable. On a un palais qui a l'air quand même dans son jus. Il flotte de partout. Elle est allongée au milieu de ses tableaux. Il y a des miroirs. Il y a des plans hyper, hyper travaillés. Presque trop. C'est presque... ça fait un peu oulala, regarde mon plan sublime que ça fait 3 heures qu'il y a 12 décorateurs qui essayent de le faire. Et puis, plus on avance, elle change 3 fois d'appartement. Et moins, c'est intéressant, notamment le rapport entre l'ennui de la femme dans un palais incroyable. Bon, ça, après, c'est terminé. Je trouvais que pourtant, l'idée est bonne parce qu'il y a des échos. Il y avait des échos possibles. Clem relevait la scène avec la belle-mère. Je trouve qu'il y a vraiment une rencontre entre Madame Bovary, l'enfermement de la femme mariée et le contexte indien. Ça pouvait faire quelque chose peut-être d'aussi fort que les multiples adaptations de Shakespeare, où on voit bien qu'il y a une rencontre entre Shakespeare et l'Inde, ça marche très 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 bien. Bon, là pour moi, c'est un peu vraiment à moitié ça marche, à moitié c'est raté. Donc moi je garderais peut-être 40 minutes de film, et malheureusement c'est là que Shah Rukh arrive. Donc on se dit chouette, 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 ça repart. Et en fait pas tant que ça, parce que fleurs en plastique, et rien ne va. Et juste je rajoute une toute petite chose, parce qu'on en a, enfin on en a un peu parlé, mais enfin les musiques, elles, ça n'a rien à voir avec le climat du film. Enfin les séquences musicales, pour moi elles étaient toutes ratées, au sens où je sais pas, on essaye de rentrer dans cet univers humide, Bovary, nanana. Puis là, d'un coup, au fait, faut rajouter des musiques, des chansons, sinon ça va pas passer. Donc j'ai l'impression que, en fait, le film n'a pas tranché entre, en gros, pour le dire vite et mal, je veux être un film d'auteur qui adapte Madame Bovary, et en fait, non, j'ai des stars, je veux un peu faire populaire, je veux ramener des gens. Et donc, en ne tranchant pas, ben moi, ça m'a épuisé. Ça m'a épuisé, ce film. Voilà.
Bon. Bah, j'espère que ça ira mieux sur celui d'après.
Il y a des beaux plans, donc en fait, je propose que l'on transforme ce film en roman photo, quoi.
Je mets les pieds dans le plat. La scène coquine entre Deepa Saï et Shah Rukh, donc qui a engendré tous ces malheurs pour ce pauvre journaliste. C'est à la fois étonnant, à la fois un peu chichiteux aussi, justement, à la fois... c'est tout ce que tu dis, cette espèce de compromis entre approche d'auteur un peu vaporeuse et en même temps truc un peu, parfois, un peu racoleur aussi dans l'outrance. Ça m'a pas...
Bah, je pense qu'on est sur le bord, et en plus, je pense que comme Shah Rukh, c'est pas son truc. Enfin, c'est pas un acteur qui va chercher ce genre de scène. Puis il n'y a pas tellement d'alchimie quand même. Enfin, je sais pas, moi j'avoue que ça m'a un peu laissé de marbre en mode « Mais qu'est-ce que t'es allé te fourrer là-dedans, mon gars ? C'est, ce genre de scène, c'est pas pour toi, ça marche pas. » Mais je sais pas, moi j'ai pas vu, ça m'a pas... voilà. Ça m'a, j'ai été plus choquée par les fleurs en plastique, tu vois.
Le rapport érotique, il l'aura avec son propre corps dans la suite de sa filmographie, surtout sur la dernière partie. Mais on aura l'occasion d'y revenir en long, en large et surtout en travers.
Ek cabaret dancer ke ishq mein tum itne pagal ho gaye ho ki tum apne baap se baat karne ka tareeka bhul gaye ho.
Aur agar mujhe Leela nahi mili to main jeene ka tareeka bhi bhul jaunga, Dad.
Nahi chahiye tumhara pyar.
Dil aashna hai.
Dil Ashna Hai, le cœur connaît la vérité, de Emma Malini. Historiquement, le premier long métrage tourné par Shah Rukh, même s'il est sorti plus tard que certains films. Et j'ai envie de dire que ça se sent un peu, tout ça est un peu vert, un peu moins flamboyant. L'acteur partage l'affiche, encore une fois, avec Divya Bharti, qui joue ici une danseuse de cabaret qui apprend que sa mère n'est pas sa mère et qui va devoir trouver laquelle, parmi trois anciennes amies ayant refait leur vie, est sa vraie génitrice. Anouk, j'ai l'impression que nous avons tous les deux préféré la partie flashback pour sa direction artistique audacieuse et sa cohérence narrative relative, là où Mathieu a été emporté par la conclusion qui était encore plus explicative que celle de Divana, mais on y reviendra après. Anouk, Dil Ashna Hai.
Ouais, une rencontre ratée avec ce film, ouais. C'est-à-dire qu'il m'a donné à espérer voir un film qu'il ne m'a pas vraiment donné à voir. Je m'explique. Donc, le contexte général du film, le temps présent, bah, c'est une héroïne qui n'est pas du tout attachante. Enfin, moi, je l'ai trouvée vraiment très insupportable. Girl power, sororité, tout ça, mais là, c'était la limite. Les numéros de scène interminables, tu voles la vedette à un mariage, après, tu prends tout le monde en otage pour faire du modern jazz pendant 17 minutes. Non, ça, c'est non pour moi. Donc voilà, j'ai vraiment pas, du coup, pas accroché avec l'héroïne. Shah Rukh, bon, bah, comme disait Mathieu, hein, sa période toxique. Là, il est presque féministe, mais il y a quand même le truc de « je t'ai regardé une demi-seconde, j'ai décidé que j'allais t'aimer toute ma vie », comme il a fait avec Gauri dans la vraie vie, hein, ceci dit. Mais... Et il la rencontre et lui dit « bon, bah, enfin, tu vois, on va se marier, quoi ». Elle lui dit « mais qui est-ce que tu aimes? Qui suis-je ?» Et en fait, elle parle de qui elle est. Elle se pose la question d'un point de vue vraiment généalogique. Enfin, elle est dans la recherche de ses origines. Mais aussi, la vraie question, littéralement, c'est « Shah Rukh, qui est-elle? Tu ne la connais pas, tu ne lui as jamais parlé. Pourquoi tu as décidé que tu l'aimais ?» Bon, bref, heureusement, très vite, on part sur un autre film qui est l'histoire de trois copines qui sont à la fac et qui font plein de bêtises. Alors, il y en a une que j'aime pas du tout sur les trois, c'est celle qui aime les chevaux. et qui tombe amoureuse d'un prince. Je la trouve tarte au possible, elle m'a saoulée. Mais les deux autres sont super. Bon, elles ont des prétendants, on s'en fout. J'aime bien le fils de l'approviseur, mais à la limite, c'est pas, ils sont pas très importants. Et donc, ces trois jeunes filles font un petit peu des bêtises. Et comme leur a annoncé l'approviseur, attention, une erreur peut se payer toute une vie. Donc, il y a, je vais essayer de très peu spoiler, je vais tellement vous embrouiller que vous n'allez plus rien comprendre et à la fin vous direz, je ne sais pas ce qui se passe dans ce film. Bref, mais il y a une histoire d'enfant et il y a une perspective d'un espèce de trouple d'amis, qui, une espèce de famille complètement recomposée, éclatée, parentalité, sororité entre amis à trois comme ça, qui est absolument fabuleuse. Et en fait, ça ne se fait pas, ça se fait le temps d'une chanson. Où j'ai commencé à voir en germe tout ce qui serait, enfin tout ce que ça révolutionnerait quoi dans la vision de la famille, de ce que c'est que d'être une mère, enfin c'était fou. Et en fait ça ne va pas au bout. Donc voilà, là moi je suis restée accrochée à ce moment-là du film qui doit arriver, je sais pas, à peu près à la moitié. Et je voulais voir ce qu'après le film ne m'a pas montré, puisque bon bah il faut retourner avec l'histoire de la pauvre orpheline qui fait du modern jazz parce qu'elle a pas de maman. Bon. Donc j'ai pas été convaincue par le film tel qu'il est, mais j'ai senti en germe vraiment un film qui pouvait être très très puissant. Shah Rukh Khan, on retrouve la duck face, hein, il s'en est débarrassé après, mais là c'est pas en faisant l'amour, c'est en se battant, il fait un peu des grimaces. Bon, il est là. Il est là, à la fin ça fait un peu piou-piou, boum-boum, mais je laisserai Mathieu raconter ça parce que c'est son moment. Voilà, moi le film m'a déposé au milieu, il m'a dit voilà le film, que peut-être que c'est à moi de le faire ce film, d'un bébé élevé par trois copines, je sais pas, mais j'ai senti qu'il y avait une transmission, un message qui était passé. Mais voilà, malheureusement c'est pas tout à fait le film que j'ai vu, mais quand même j'ai pas souffert, hein. C'était assez fun, à part pendant les numéros de Modern Jazz de 17 minutes, là j'ai un peu souffert.
Mais ça se voit en plus sur les. Enfin, t'as l'impression que les figurants tirent la gueule, en fait. Les minutes passent et ils ont l'air de plus en plus saoulés. Enfin,
mais j'avais la même tête, mais oui, exactement. Mais vraiment, là, on a vécu, on était tous ensemble hein, dans ces trucs-là. Juste, faut pas danser, en fait. Enfin, pas comme ça. Pas... Non, ouais, c'était terrible.
Amandine, avant d'aborder la fin avec Mathieu.
Eh ben, ouf. En fait, il y avait un film étonnant. Faisable, mm-hmm. qui n'a pas été fait.
On le fait, Amandine, vas-y, cet été, mais on oui, se prend un mois, on le fait.
On fait que le flashback. Non, mais je veux dire, moi j'étais là, bon, Emma Malini, immense personne de l'industrie, mais qui propose un film très autour de personnages féminins, elles travaillent, elles ont une vie, elles ont des dialogues, elles ont, enfin c'est sur le papier, ce film, non pas, je parle pas de révolution, on n'en est pas là, mais sur le papier, ce film pouvait dire quelque chose, et il y a des scènes où ça marche, hein, les scènes, comme dit Anouk, de fac, les trois copines, machin. Et en fait, je sais pas, il y a un truc... ça prend pas, voilà, ça prend pas. Par contre, j'ai beaucoup aimé... je sais pas si Mathieu, dans sa grande théorie vestimentaire, va en parler, mais il y a toute une partie où les trois copines sont constamment habillées de façon assortie. C'est hyper drôle. Soit c'est les types de hyper colorés ou avec des motifs assortis. Fin...
Les immenses t-shirts XXXL, là.
Ouais, puis il y a toujours le petit motif, on sent que ça a été fait pour le film, quoi. On n'est pas encore dans des créateurs de mode qui viennent à Bollywood pour essayer de coller leur création. Là, on est vraiment avec un vrai costumier, en fait, qui s'est amusé à... Bon, il y a un petit côté Power Rangers, hein, j'avoue, là, au début.
Cat size.
C'est un petit peu violent, mais il y a un truc sympa, il y a un bon... Voilà. Le problème, c'est effectivement cette espèce de première partie un peu lourde, un peu dramatique sur la pauvre Leïla qui cherche sa mère. Donc, en fait, voilà, le film n'arrive pas à choisir une veine romantique par romantique, humoristique par humoristique, mais il y a quand même, je pense quand même qu'il faut qu'on souligne le fait qu'il y en aura, et parce qu'il n'y en a pas tant que ça, des films qui se consacrent à des femmes, à des personnages de femmes, aussi bien de leur jeune adulte qu'à la fin où elles travaillent toutes, elles ont toutes une carrière, même une, elle a une carrière politique. Donc ça dit quand même des choses qui ne sont pas si communes dans ce cinéma populaire, d'avoir voilà, par exemple un personnage qui est ministre et de parler de ça, même si c'est léger à côté des 17 minutes de danse, hein, bah, y a quand même quelques répliques autour de c'est quoi être une femme en politique, quel sacrifice elle a dû faire. Donc c'est léger, c'est une teinture... mais c'est quand même là. Et en fait, bah, comme vous l'entendez à ma voix, Shahrukh, il est un peu noyé là-dedans. On voit bien qu'il n'est pas le cœur du tout du projet. Donc, en fait, voilà, c'est pas lui le sujet de ce film, en tout cas.
Bah, jusqu'à la fin, en fait.
Ah bah, la fin, tu oses parler de fin. Je veux dire, là, dire qu'il y a une fin de film, c'est quand même audacieux.
Puis c'est hilarant parce qu'il est là avec son père, il joue son film comme on l'a vu dans 10 millions de situations avec le père qui dit « Non, tu épouseras pas cette meuf » et lui qui dit « Si, j'épouserai cette meuf, papa, tu peux me déshériter. » On l'a vu ça 1000 fois, puis à la fin, je sais pas pourquoi, le père dit « Ah bah si, finalement c'est bon, il n'y a aucun sens à ce truc. » Enfin non, il est dans son coin, voilà, il est vraiment en arrière-plan en train de jouer son film, donc personne n'a rien à foutre. Et ça va, il a l'humilité de rester à sa place.
Enfin, rester à sa place quand même... Il y a ce moment d'égarement, on va dire, de Divya Bharti, où il lui met une énorme torgnole pour la remettre en place, quoi. Tu te dis, ok, ça commence bien. Et dans la foulée, en plus, il lui dit, il a quand même l'audace de lui dire, surtout, contrôle tes émotions. bon, hein.
C'était l'époque.
Donc, film féministe, oui, mais on a quand même un discours sur les hommes qui est un peu particulier, surtout qu'on a aussi le fameux Sunil qui revient d'entre les morts presque, qui revient à la toute fin du film, qui débarque tel un militaire qui saute dans un bateau, et en fait, parce que, spoiler alert, je mets un peu un temps de latence, spoiler alert, c'est lui le père, et donc... C'est lui le père, il retrouve les femmes et il lâche un truc tranquille. Séparation et réunification, tout est décrété dans ce monde. Ok, très bien. Donc en fait, c'est comme ça que tu prends tes responsabilités de parentalité. Très bien, mec, super.
Après, c'est un mec qui a passé les trois quarts de son existence sur un parapente. Enfin, je veux dire, il n'a pas lu de livre. Hein,
Oui, non, c'est sûr. Mais j'avais l'impression d'être face au nouveau All is Fair in Love and War, quoi. Tu vois, qu'on avait vu dans Casual, quoi. Cette espèce de phrase, oh, mais c'est bon, tout va bien. Mais non, mais pas du tout, quoi, justement. Et du coup, Shahrukh, qui débarque, il sert qu'à ça. Et tu te dis, bon, ben ouais, il s'est complètement fait manger par le film. Ou alors, il n'avait pas envie d'être là, j'en sais rien. Enfin, bref. Et surtout, on voit quand même que le film... Bah, c'est le show de Divya Bharti, quoi. Enfin, moi, je suis un peu à rebours d'Anouk là-dessus. Je trouve qu'elle est impeccable. Elle se donne à fond.
J'ai pas critiqué la femme, j'ai pas critiqué l'actrice, j'ai critiqué le personnage.
C'est d'accord, ok. De le dire. Okay. Moi, il faut savoir un truc, c'est que les numéros musicaux, soit ça m'attrape, soit ça m'attrape pas. Et quand ça m'attrape pas, ben, je vais faire autre chose. Donc du coup, je sens pas j'ai pas le ressenti.
Ah oui, donc t'as vu une
terrible.
Heure de film en fait. Quoi.
non, parce que je me suis fait aussi. Je suis quand même fait attraper par certains numéros musicaux, pas tous. Voilà. Mais je trouve qu'elle est super parce qu'elle se donne à fond, elle est dans tous les sens, elle fait des roulades. Enfin voilà, elle est au taquet dans son truc. Et puis on sent vraiment que le film, il est taillé pour elle en fait. Enfin, les numéros musicaux, les tenues qu'on lui donne, voilà, elle est faite pour être mise en valeur au maximum. Quoi. Et je trouve que d'un autre côté, elle s'approprie quand même assez sans aucun problème le film, quoi. En sachant qu'il y a quand même ce moment de bravoure qui est évidemment sa danse de la rage. Deuxième référence à Footloose, hein, attention. elle fait cette espèce de danse de la rage. Moi, je trouvais ça assez cool, quoi. Pour les griefs, je dirais quand même, et là, je suis à rebours d'Amandine cette fois-ci. Je trouve que justement, côté costume, on s'est pas trop fait chier. Parce qu'on a un flashback de 18 ans plus tôt, mais en fait, les trois meufs sont sapées exactement à la mode du début des années 90.
Oui. On change pas une équipe qui gagne. Hein.
Mais voilà, moi j'étais bon, ok, apparemment, donc dans les 70, on s'habillait, on avait 20 ans d'avance, très bien, soit. voilà, et après on se fait pas chier non plus du côté du scouting des lieux de tournage, on sent que entre le polo, la voile, le parapente, on sent que la production avait pris un abonnement au parc de loisirs, hein. Il fallait rentabiliser quoi un peu. Donc c'est tous ces trucs là où tu vois d'ailleurs... Je sais pas si c'est mon manque d'intérêt pour ces personnages masculins, mais en fait à un moment j'ai cru que les trois prétendants... en fait c'était le même acteur, c'était la même personne. En fait elles sont amoureuses du même mec, donc en fait on devrait savoir qui est le père assez facilement. mais en fait non, pas du tout, qu'elle ne fut pas ma surprise de les voir réapparaître et dire ah d'accord, ok. Voilà, je n'ai pas forcément passé un excellent moment, comme vous pouvez le comprendre sur le film, jusqu'à ce final, qui est quand même assez incroyable, parce que jusqu'à ce moment où Shahrukh enfourche sa moto,
oui,
et décide de monter dans un paquebot à moto. Voilà, il essaie de refaire les marins de mer le marin des mers de Chine, pardon, avec une moto, quoi. Il essaie de faire la bagarre avec une moto. Et du coup, il y en a ces fameuses scènes de bagarre. Bon, celle-ci, elle est quand même un cran au-dessus hein, de toutes celles qu'on a vues dans les épisodes qu'on a fait jusqu'ici. Mais on en a quand même pas mal dans les productions Bollywood de l'époque. Et j'arrivais pas trop à savoir si j'adorais ou je détestais. En fait, je suis sans doute un peu entre les deux, hein, ça dépend. Voilà. Et je me disais, mais pourquoi? Comment? Pourquoi faire des choses pareilles? Enfin, ça n'a aucun sens. Les chorégraphies sont nulles à chier. Les coups de poing passent à 2 mètres. Ça fait des bruits avec des échos et tout.
Des bruitages de baston.
Bah oui, des bruitages, quoi. Ouais, exactement. Mais tu penses que les bruitages de Hong Kong... Tu peux pas faire pire que les bruitages de Hong Kong. Et en fait, si. Si, tu peux. Voilà, c'est possible. Mais du coup, cette scène a quand même été une révélation. Notamment quand j'ai vu Shah Rukh taper sur la tête, pas dans la tête, hein, sur la tête d'un assaillant avec le poing fermé de haut en bas. Et je me suis dit, ben voilà, en fait, c'est du Bud Spencer et du Terence Hill. Voilà. Et je me suis dit, mais oui, mais bien sûr. une fois que tu as accepté ce truc-là, ben, tu te dis, ah ben d'accord, ben, regardons un truc complètement ridicule, on dirait du burlesque, quoi, en fait. Voilà. Et du coup, c'est bien parce que ça entame ma première. C'est le début de ma théorie que tout cet épisode est traversé par du cinéma d'exploitation italien. Voilà. Le deuxième, c'est qu'on est face à trois mères, comme chez Dario Argento. Et ouais, on a des rêves, on n'en a pas.
Ça va.
Non mais voilà, donc cette scène complètement dingue, où rien n'a de sens hein, quand même, hein, faut quand même le rappeler, quoi, parce qu'il faut quand même accepter beaucoup de choses, hein, faut en avaler des couleuvres. Mais parce que ça se passe sur un paquebot, ensuite ça repasse sur un autre bateau, il y a plein de gens qui sautent, il y a les anciens amants respectifs qui débarquent, tu te demandes, tu sais même pas d'où ils sortent, enfin bref, pour un final comme on a dit, un peu en eau de boudin, hein, un peu bâclé, quoi, voilà, patatras, pouf, ah, c'est moi ton père, c'est moi ta mère, et puis ça fait des chocs à pic, quoi.
Ah. Et c'est réglé. Clem,
Je trouverai pas autant de qualité au film que vous en avez tous trouvé, mais c'était très intéressant de vous écouter. Moi, je dirais que c'est un peu mon chamatkar de cet épisode. C'est que ma leçon, c'est qu'il faut pas faire ça. C'est vraiment pas nécessaire. En fait, le film s'ouvre avec un long numéro musical parmi les dizaines de numéros musicaux interminables du film, avec un solo de saxo. On est vraiment sur du saxo porn des années 80. C'est affreux. Le premier truc qui m'a fait tilter, c'est qu'on a un personnage très secondaire, mais qui va revenir dans le film. C'est l'associé du père de Shah Rukh qui a une fausse moustache. Et avec ses cheveux longs et sa fausse moustache, déjà, on se dit que le département maquillage et perruque est demandé à l'accueil tout de suite. Et puis, on grille à des kilomètres que ça va être le méchant du film. On ne sait pas comment, mais effectivement, ce sera un des méchants du film. Et c'est un peu symptomatique du film, c'est qu'il y a vraiment... Je pense qu'on ne peut pas compter tous les axes narratifs du film. C'est qu'on te lance plein d'histoires avec plein de personnages. Il n'y a rien qui va ensemble et tu dois nager au milieu de tout ça. Tout ce qui m'a accroché, c'est clairement Divya Bharti parce que je trouve qu'elle joue super bien. J'irais même jusqu'à dire que moi, j'ai trouvé son personnage un peu attachant. C'est vraiment le seul truc qui m'a un peu tenu dans le film. Et pour tout le reste, les flashbacks sur les trois femmes, c'est quand même très compliqué. On a eu un défilé comme ça d'acteurs, d'actrices. Il y a Mithun Chakraborty qui, du coup, avec son parapente, qui débarque. Où on se dit, bah, c'est à la fois un très grand acteur du cinéma d'auteur bengali notamment, mais c'est aussi disco dancer, quoi. Et là, il est clairement sur disco dancer, il n'est pas sur un super registre.
C'est bien, disco dancer. Moi, j'aime pas.
Ah, c'est compliqué, hein.
Ah, bah, j'ai une grosse tendresse pour disco dancer.
D'accord, bah écoute.
Jimmy. Hacha.
il faut, hein, tant mieux. Il en faut. Mais je dirais que c'est c'est un peu le
tu
symptôme.
Verras, quand on a mon âge.
Ah, c'est ça.
Bim, bim, alerte.
Alerte boomer. C'est un peu le symptôme d'Ivana, c'est que c'est un film qui a un thème potentiellement progressiste. Sauf qu'il est tellement dans son jus années 90, et encore je suis gentil parce que même années 90 il y a des choses où c'est tendu, que ça passe complètement à côté du propos qu'il essaie d'avoir, que ce soit, on disait tout à l'heure, la gifle monumentale que Shah Rukh met à Divya Bharti, alors que juste avant il vient de lui dire qu'il la respecte profondément quand même. Il y a le moment où elle est mise à la porte, enfin elle est mise à la rue littéralement, et où le personnage qui la sauve, qui est montré comme un homme bienveillant qui la prend sous son aile, la première chose qu'il lui dit, c'est quand même « Mais t'es folle de marcher dehors à une heure pareille !» Le message féministe, on va peut-être repasser, c'est quand même dur de se dire que c'est une femme qui a réalisé ça. Quand on connaît l'orientation politique d'Emma Malini, peut-être que ça explique des choses. Ouais, c'est un peu compliqué. J'ai retenu aussi la scène d'anniversaire où les trois jeunes femmes disent qu'elles ne boivent pas d'alcool. Tous les mecs autour disent « Mais c'est du champagne, c'est pas de l'alcool ». C'est une certaine définition de la pression du groupe. Donc voilà, jusqu'au climax, qui effectivement, là pour le coup, est le moment vraiment divertissant du film. Moi, j'y ai vu un côté précurseur aux Avengers, tu vois, où vraiment t'as tous les personnages qui sont réunis, qui se TP au même endroit, tu sais pas pourquoi, il n'y a pas de sens, mais voilà, ils sont là et ils se sont tous concertés. Donc ça devient un petit peu divertissant pour ce côté-là. Et puis il y a un méchant, un homme de main qui est un peu un spot préventif contre la calvitie. Voilà, un petit chauve qui répète en boucle deux phrases. C'est « Laga Hacha Laga » et « Hacha Nei Laga ». Voilà, il sait dire que ça, c'est... Je sais pas si j'ai été fasciné ou dépité par ce personnage, mais c'est le seul truc que je retiens vraiment du film, en fait. Donc voilà, le Chamatkar de cet épisode. Et j'ai décidé pour la notation de noter le nombre de tasses de café que j'ai pris devant. Ouais. Sauf que j'ai arrêté de noter au bout d'une heure vingt, mais j'étais à 6 tasses de café. Voilà. Et à 6 tasses de café sur 20 pour ce film.
D'accord, t'as passé la fin du film en hurlant, quoi. Ouais,
c'est peut-être pour ça que c'était aussi divertissant sur la fin, mais gros drop d'adrénaline.
Faut quand même rappeler, Clément, faut que tu dises ce que ça signifie, les deux phrases du méchant qui ressemble à Professeur X de Action Man. Là.
Oui, oui, c'est j'aime ça et j'aime pas ça, quoi. Enfin, en gros.
Voilà, c'est ça.
Et donc, il répète ça en boucle. Enfin, j'aime ça. Et quand il se fait buter, il meurt en disant j'aime pas ça. Enfin, voilà, c'est fascinant d'écriture, quoi.
Non, mais je pense qu'il faut regarder que le final. Voilà, il faut dire aux gens, regardez la scène finale.
Bon, 100 dernières minutes. Hein, oui.
Les 5 dernières minutes, c'est un espèce de glooby-boulga de montage absurde. Ouais. Et même, voilà, même nous qui sommes quand même assez entraînés, mais ça rejoint quand même cette espèce de façon. Il y en a beaucoup des films comme ça dans les années 90. Ça rejoint, moi, ma grande théorie, c'est qu'en fait, le final intéresse peu. Les gens commencent déjà à se lever, on sort de la salle. Bon, bref, ce qui est important, c'est comment on arrive jusque-là. Après, à la fin, bon. On termine rapidou le film, on met tous les personnages, on fait un petit coup de checker et puis on voit ce qui sort.
T'essaies pas de nous dire que l'important, c'est les amis qu'on se fait sur le chemin ?
Exactement. C'est pas le résultat, c'est pas, c'est pas l'arrivée qui compte, c'est le chemin. Pour y aller.
Mais c'est vrai qu'en
tout cas, il y en a beaucoup.
Le film est dispo sur YouTube sans sous-titres. Regardez le final, il n'y a pas besoin des sous-titres. Ça change absolument rien à la compréhension. Allez-y.
Limite, ça embrouille, en fait.
C'est peut-être mieux sans les dialogues, effectivement.
Voilà. Dil Ashnahe, un film qui aimerait avoir le cœur au bon endroit. अब वो दिन दूर नहीं जब तुम हमेशा हमेशा के लिए मेरे हो जाओ मुझे प्यार हो गया इसी वक्त प्यार लेकिन इसकी एक झलक तो दिखा दे कभी कभी जीतने के लिए कुछ हारना भी पड़ता है और हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं क्या कहते हैं बाजीगर Et nous finissons avec un énorme dossier, avec Bazigar, le parieur, film de la fratrie Abbas Moustan, film dont nous avions déjà parlé dans le tout premier épisode de Cajol et moi, vers lequel je vous renvoie. On parlait de cette tendance du cinéma bollywoodien, d'époque surtout, maintenant c'est un peu plus compliqué, à s'asseoir vraiment confortablement sur la notion de copyright et donc à remaker le premier truc qui lui tombait sous la main. Là en l'occurrence, c'est un remake lointain. Encore une fois, de A Kiss Before Dying, un baiser avant de mourir, un film américain de 1991 avec Matt Dillon et Sean Young, thriller vaguement érotisant, dont il reprend le principe de base, vraiment, la vengeance d'un jeune garçon qui a vu ses parents brisés par un méchant, un grand méchant capitaliste, comment il va articuler sa vengeance en sourdine et être plus ou moins un tueur en série, voilà. Très sympathique. Et Bazigar reprend quelques scènes, quelques plans même, du film. Mais le reste, c'est vraiment de la licence poétique. Hein. C'est vraiment très, 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 très libre. En particulier les scènes musicales, en particulier le côté comique qui est amené par une ancienne némésis de Mathieu, l'acteur comique Johnny Lever, le redoutable acteur comique Johnny Lever. Là, on est sur un rôle qui révèle vraiment Charouk parce que c'est le film est un énorme succès. Le film vaut à Charouk, comme je le disais en intro, de gagner son premier film Fair Award en tant qu'acteur. C'est plus une révélation, c'est vraiment en tant qu'acteur. C'était un rôle qui a été refusé par Amir Khan, Akshay Kumar, Anil Kapoor. Salman Khan, à un moment, a été envisagé, mais le père de Salman Khan a déconseillé à son fils de le jouer en disant qu'il n'était pas encore prêt pour endosser une telle part de négativité. Charouk, lui, s'en bat les steaks. Il n'a aucune réserve, il y va tête baissée. Et toutes ces petites traces de la toxicité des premiers rôles de Charouk, là, on est sur une forme de condensé, hein. On est sur un concentré complètement fou. Charouk explose, Charouk exulte, Charouk est vraiment dans une intensité, mais qui laisse pantois, en fait, quoi. C'est-à-dire que le film a vieilli. Le film, quand on n'est pas habitué au cinéma Bollywood, c'est d'une grande violence, hein. Le morceau musical Bazigar au Bazigar est absolument somptueux. Moi, je l'adore. बाजीगर मैं बाजीगर दिल वालों का मैं दिलबर बाजीगर मैं बाजीगर दिल वालों का मैं दिलबर. C'est le premier morceau, si vous voulez écouter la mixtape Kajol et moi, c'est le premier morceau, vraiment de la mixtape. Le morceau est merveilleux et le clip est fou. Le clip, Anouk avait été traumatisé à l'époque de l'enregistrement de Kajol et moi. Donc il y a quand même ça quelques années maintenant, il y a ça quelques années, 2-3 ans quand même. C'était capture d'écran sur capture d'écran, il y a un cosplay Charouk. Enfin, on prend tous les vêtements à porter, tous les vêtements de farce et attrape, de costumes qui passent sous la main, même des costumes féminins, des costumes d'enfants, n'importe quoi. En fait, costume de Zorro, costume de marin, de Arnaud Montebourg, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Amandine, tu as revu le film et on est dans la théorie, on est dans Footloose, on est un peu dans tout ça. Pour toi, c'est vraiment l'arrivée tonitruante pour de vrai du Shah Rukh Khan qu'on connaît dans nos vies.
Ah oui, là, ça m'a vraiment sauté aux yeux. Alors, j'ai absolument pas réécouté ce qu'on racontait il y a quelques années sur le film, donc vraiment, je repars de zéro, en fait. Et ça m'a vraiment, vraiment sauté aux yeux en le revoyant, à quel point... Là, ça y est, l'acteur Shah Rukh Khan est complet. C'est-à-dire, il aimante l'écran, il bouge un petit bout de sourcil, je suis en pamoison. Il y a un petit peu de vent dans la mèche et ça y est, on l'a complètement. C'est-à-dire, cette
les
espèce d'intensité, les yeux
humides.
Ah, il est incroyable, il est beau, il est... Voilà, donc là, c'est vraiment là, à ce moment-là, je me suis dit, là, tout ce que j'ai vu avant, Madame Bovary, tout ça, c'était quelque part des esquisses de ce que, quelque part, il a testé des choses, hein, bien sûr, il y avait des choses intéressantes dans les films précédents, mais le Shah Rukh Khan auquel on pense quand on en parle, il est là. Pour moi, il est vraiment là, c'est sa naissance totale. Et pas si, parce qu'il est sur le fil d'un rôle, comme tu l'as dit, un rôle compliqué, refusé par plein d'autres stars. Le début d'une veine un peu bollywoodienne, violente, et d'une veine de anti-héros, qu'on va expliquer. Il y aura plusieurs films comme ça, on va recroiser cette thématique dans les prochains épisodes, mais cette veine un peu d'anti-héros dont on explique la violence et on explique la douleur par une enfance brisée, une enfance avec un personnage de mère très fort et une enfance qui a été un peu saccagée, donc on justifie, si je peux dire, la déchéance du personnage. C'est quelque chose qui est très ancien dans le cinéma populaire indien. Il y a un magnifique exemple dans Avara de Raj Kapoor dans les années 50, hein, donc c'est pas récent, mais là, Charouk
il en fait autre chose, il mélange ça avec un côté un petit peu hollywoodien, les lentilles pour avoir les yeux qui changent de couleur, enfin marron, etc. Donc, il y a un petit côté un peu moderne là-dedans. Enfin moderne, je mets des gros guillemets partout, hein, sinon on va encore dire qu'on est des boomers. Bref, il y a quelque chose de novateur. Par-dessus, à ce côté très intéressant, très intense d'avoir un anti-héros comme héros et qui est joué par un bel acteur, donc c'est compliqué pour un public habitué au Prince Charmant, c'est un petit peu compliqué, parce que tout ce qu'on a relevé avant, là, des phrases limite pas féministes dans les films d'avant, Bollywood s'en fiche royalement. Hein. Mais là, c'est demander au public d'accepter qu'un personnage négatif, qu'un personnage de tueur, soit par ailleurs extrêmement séduisant, sexy et incarné par une star. Donc ça, c'est quand même un grand, grand pas en avant. Et deux autres petites choses, c'est l'arrivée du couple Shah Rukh Khan Kajol. Ouais. Et mon Dieu, qu'est-ce que c'est beau, mon Dieu, qu'est-ce que ça marche, et mon Dieu, qu'est-ce qu'ils sont... Enfin, à un moment, j'ai dû me dire, arrête Amandine, rappelle-toi, on regarde Shah Rukh, on a déjà fait Kajol, mais elle est tellement bien, elle est tellement incroyable cette actrice que ça m'a de nouveau relancé. Peut-être qu'on devrait faire une intégrale Kajol, hein, je pense que ça pourrait...
La refaire, tu veux dire.
La refaire. C'est vraiment très très beau, leur couple marche du tonnerre. Et puis comme tu disais, c'est quand même une très très grande BO. Enfin, la bande originale est exceptionnelle. Bon, Bazigar au Bazigar, c'est un monument, mais globalement, il y a vraiment, enfin, on n'en a pas vu encore, je trouve, des films dans lesquels on a cette puissance de la bande originale. C'est-à-dire qu'il se tient totalement sur tout le film. Plus ou moins barré, pas toutes les chansons sont réussies, mais on sort du film en disant « Là, j'ai entendu un film. J'ai vu un film, mais j'ai aussi entendu un film qui a une patte, qui a une identité musicale extrêmement, extrêmement forte. » Donc pour moi, Bazigar, il a plein de défauts ce film, et je suis sûre que vous allez en parler. Il y a des scènes un peu moins fofolles. Je ne suis pas très très fan de Shilpa Shetty, qui est une des deux actrices. Je ne suis pas non plus méga fan de course automobile en Formule 1, mais on s'en fout. Shah Rukh Khan est né, il est parmi nous, il est arrivé.
Venez écouter la bonne nouvelle. Voilà, tout à fait. Clem, Bazigar au Bazigar.
Je vais abonder dans le sens d'Amandine. C'est un film pour lequel j'ai énormément d'affection, que j'ai vu pas mal de fois. Alors c'est vrai qu'il a forcément vieilli, hein, mais quand on se remet quand même dans le contexte de l'époque, c'est une petite révolution pour Bollywood que ce film arrive, pour la construction de la figure du anti-héros. Et effectivement, c'est clairement une des premières pierres majeures dans la construction du mythe Shah Rukh Khan en tant que qu'acteur, que futur superstar qui va faire exploser les limites de ce qu'est un héros à Bollywood. D'ailleurs, si la plupart des acteurs de sa génération avaient refusé le rôle, c'est aussi parce qu'ils avaient peur d'être enfermés dans un rôle négatif. Amir Khan avait dit qu'il voulait pas... finir comme tous les antagonistes, grands antagonistes du cinéma indien, les Amrish Puri et compagnie, à qui on propose plus que des rôles négatifs, finalement, et qu'il avait vraiment trop peur de se risquer là-dedans. Shah Rukh Khan, vraiment, comme tu le disais, il saute à pieds joints là-dedans. Il décide d'assumer la toxicité qu'on a déjà vue dans les films précédents et de la décupler à un niveau inouï. Mais il y a aussi la naissance du Shah Rukh en termes de pur drame, tragédie, en quelque sorte. On parlait déjà de son intensité dans les films précédents. Là, c'est vraiment un acteur qui embrasse la tragédie de son personnage, qui l'aime profondément, ce personnage, à qui il va donner une humanité très déconcertante. Et je trouve ça assez fascinant de voir vraiment une légende se créer en temps réel devant nous. C'est quand même passionnant. Au niveau des séquences, il y a vraiment des séquences marquantes, encore une fois, peut-être qui ne vieillissent pas toujours très bien, mais je pense à la séquence de Shilpa Shetty où on a la bascule narrative, où on découvre vraiment Shah Rukh Khan en tant que tueur dans le film. C'est une séquence qui a une importance cruciale dans le cinéma populaire indien et qui va devenir immédiatement culte parce qu'on n'a jamais vu un héros, parce que quand même toute la... Le premier tiers du film, on nous le présente comme un héros romantique. On l'a jamais vu faire ça à l'écran, quoi. Et c'est vraiment une bascule qui va avoir son importance à Bollywood et que je trouve assez folle. L'alchimie, comme tu le disais, Amandine, l'alchimie entre Shah Rukh Khan et Kajol, on va pas refaire l'histoire, mais c'est clairement un couple mythique de l'histoire du cinéma indien. Et dès leur première apparition ensemble, ça marche, quoi. Il y a vraiment une magie qui se crée. Et je trouve ça d'autant plus frappant quand on voit à quel point avec Shilpa Shetty, il n'y a pas grand-chose qui se passe. De voir que tout de suite, dès qu'il rencontre Kajol à l'écran, il y a une magie, il y a quelque chose qui est vraiment pas explicable, quoi, qui est vraiment de l'ordre de la rencontre artistique absolument magique. Et effectivement, l'album est fabuleux. Tu parlais du titre de la chanson éponyme. Moi, c'est vraiment la chanson « Yekali Kali Anke » qui me marque beaucoup. Je pense qu'il se passe rarement plus d'un ou deux mois sans que j'aille la réécouter, cette chanson. C'est une de mes chansons préférées de la carrière de Shah Rukh Khan. Yekali Kali Anke, Yegore Gore Ga, Yetiki Tiki Nazre, Yehirni Jaisi Chal. ये काली काली आँखें, ये गोरे गोरे कान, ये तीखी तीखी नजरें, ये हिरनी जैसी चाल. La chorégraphie est assez folle aussi. On a un film qui effectivement accuse le poids du temps, qui a des défauts, des imperfections. Mais c'est pour moi la première vraie grande réussite dans la filmographie de Shah Rukh Khan. C'est un film qui nous révèle complètement un acteur qui demandait que le bon rôle pour complètement révéler qui il est. Et c'est un sacré morceau de cinéma indien des années 90.
Mathieu, est-ce que tu as senti le poids de l'histoire dans ta découverte?
Déjà, moi, je trouve
Mathieu
que...
le pauvre, il doit parler de Johnny Lever alors.
Ouais, c'est clair, c'est un, oui, c'est
je
un peu dommage.
Je t'ai pas lancé dessus.
Non, c'est sûr, mais j'y viendrai, de toute façon, j'y viendrai. Je sens que c'est important, il faut adresser l'éléphant dans ma pièce. Non, déjà, je pense, juste mes deux cents sur la situation avec Shah Rukh Khan aussi, c'est qu'en fait, ne faisant pas partie du sérail, en fait, il avait tout à gagner, quoi, à faire ce rôle-là. Donc, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a le poids, justement, des dynasties, le poids des familles de cinéma en Inde qui font que, on est dissuadé ou non de faire des rôles ou pas. Exactement. Et là, en l'occurrence, en fait, on a quelqu'un qui est en mode... il est maverick, quoi. Shah Rukh, il est en full maverick et... Quel kiff ce film! Non, mais vraiment! Ah. Enfin, moi, je m'étais préservé de l'écoute du second épisode de Kajol et moi parce que je voulais garder un regard vierge. Et j'ai bien fait, quoi! Parce que le plaisir procuré par le visionnage, il est à la hauteur de la surprise. Je pensais que ce serait le moment de Kajol, et en fait, non! C'est Shah Rukh qui débarque pour mettre tout le monde d'accord en mode Shah Rukh killer, quoi! Voilà. Ou Shah Rukh Thriller, ça dépend comment on prononce, évidemment. mais surtout, le truc, c'est un giallo indie, moi, c'est pas ce pourquoi j'avais signé, mais par contre, c'était exactement ce que j'avais envie de voir, mais je le savais même pas. Voilà. Et franchement, l'espèce de bascule dont parlait Clément, pendant la première heure, tu te dis, on est sur une mouture hyper classique, traditionnelle de Bollywood, et là, bam, le truc il bascule totalement. Shah Rukh, il est en mode full machiavélique, il est incroyable, il est possédé, il a des yeux verts de reptile, là. En plus, il y a des gros plans constamment dessus, on s'en lasse absolument pas, il est constamment filmé là dans son espèce de regard de tueur. Voilà, il y a du Joe Spinell de maniaque, il y a du Michael Rooker dans Henry Portrait d'un Serial Killer, tu vois, en lui, il est complètement habité par la performance, et il y a cette scène qui est génial où après avoir buté la pote de Kajol, il bouffe la photo qui pourrait l'incriminer et d'un air mi-satisfait, mi-psychopathe. C'est fabuleux parce que là, tu te dis, en fait, tu sais pas s'il fait ça pour laver l'honneur de sa famille ou si c'est vraiment un psychopathe, en fait. Et je trouve ça hyper, hyper bien fait. Il amène carrément, par son simple jeu, il amène encore plus loin le personnage parce que j'imagine que c'était pas écrit comme tel, mais lui, il a décidé de le jouer comme ça et les gens on bascule là-dedans avec cette interprétation-là, quoi. Voilà. Et en plus de ça, moi, je suis un grand fan de cinéma d'exploitation italien, donc on y revient encore une fois. Mais l'espèce de patite d'époque, la grammaire cinématographique qui est un petit peu indigente quand même sur certains aspects, on ferait clairement une nouvelle fois de ce côté-là, quoi. Encore une fois, cette scène d'exécution là où il étrangle la femme, j'ai l'impression d'être dans un film de Fulci, en fait. Et je trouve ça hyper bien fait. Il est tout suant comme ça, il tremble, il est en train de la buter. T'étais là, mais waouh, c'est, je sais pas, je trouvais ça hyper bien fait. Et puis, il y a cette espèce de montée sur les deux dernières heures, c'est tout qui va crescendo. Il y a une espèce d'apothéose de Shahrukh le possédé, quoi. Il y a un truc hyper climatique dans la structure du personnage déjà, dans sa transformation, mais aussi dans la mise en scène. La scène finale, là, le dénouement, donc on parlait sur Dilash Nahe, de problème de dénouement. Là, le dénouement, il n'y a rien à dire, quoi. Le truc, c'est il se transforme carrément, quoi. Il est un être presque surhumain, mais presque aussi en fantôme. Il est presque déjà mort, c'est-à-dire qu'il blanchit à mesure de plan. Il a ses yeux qui s'injectent de sang. Il y a des effets bien gore aussi qui vont avec, mais en fait, on a l'impression qu'on bascule carrément dans l'au-delà, quoi, avec la prestation de Shahrukh. Je trouve ça hyper bien amené, cette espèce de climax complètement dingue, l'affrontement final, quoi. Voilà, donc vraiment sur les deux dernières heures, la première heure aussi, parce que on est sur un truc plus classique, mais j'ai adoré de bout en bout, quoi. Et le premier numéro musical, bon, bah oui, c'est... Qu'est-ce que tu veux que je te dise?
Bah, rien.
Voilà.
Enfin, non, si, vas-y, dis-moi plein de trucs.
Mais ce qui est fabuleux, c'est que justement, en fait, tu te dis, t'as ça dans ce film-là, et d'un autre côté, t'as les deux dernières heures, quoi. Et tu te dis, waouh, ok, le grand écart. Même Jean-Claude Van Damme, il aurait pas osé, quoi. Puis bon, malheureusement, il faut quand même... Parce qu'il faut terminer sur cette note un peu... un peu négative, voilà, il faut parler de Johnny Lever, hein, c'est ça, on n'a pas le choix, ou alors on peut ne pas en parler, c'est comme vous voulez, non, il faut en parler pour le bien des gens.
Cette remarque avant qui m'y fait penser par capillarité, et pas par esprit d'escalier, c'est que le retour des décors fous, quand même,
ouais.
Amandine, ouais. Je sais pas si ça t'a frappé, mais là, t'as des salons et des maisons qui ne veulent rien dire.
Non, puis moi, j'en peux plus de leurs tableaux, quoi. Qu'on arrête de mettre des tableaux. Ça n'a aucun sens, la présence de l'art et tout, c'est pas possible, faut qu'ils arrêtent. Enfin, je sais pas. Je sais pas ce qui se passe. C'est du carton-pâte, c'est du studio, donc on récupère des machins, il y a des canapés partout, il y a des pots de fleurs avec les mauvaises fleurs dans les mauvais pots. Moi, non, ça m'épuise.
Explique aux gens ce que t'entends par tableau, Amandine, parce que je pense notamment à celui qui est dans le bureau du père. J'imagine c'est de l'art business. Est-ce que quelqu'un peut le décrire?
Bah, Anouk, c'est toi qui déménages, donc c'est toi qui vas devoir relooker ton appartement. Donc, explique.
C'est ça. Alors, donc moi, je ne mettrai pas ça chez moi, ça ne correspond pas du tout à mon schéma de couleur. C'est un cadre blanc dans lequel il y a une coche comme check, et à côté de la coche, il y a un point d'interrogation. Et ça, c'est au mur, ça. Et ça top. Je ne suivais plus du tout les scènes. Hein. Je regardais ce truc en me disant, qu'est-ce qu'ils essaient de me dire? Qu'est-ce que c'est? À quoi ils ont pensé? Est-ce que ça vaut cher? Voilà, j'étais complètement en dehors du film à cause de le décor. Là, le décor est un personnage, ce tableau était un personnage, et ce tableau était plus maléfique que Shahrukh Khan.
C'est de l'art Microsoft Publisher.
Ouais, t'as une arrivée aussi au rez-de-chaussée d'un escalier où t'as 14 pots de fleurs qui n'ont jamais tous la même taille, ça n'a aucun sens.
Ah non, mais c'est épuisant, c'est-à-dire pour les gens comme moi qui passent beaucoup trop de temps à essayer de regarder les décors, à penser le décor, c'est ce genre de film, ça me met par terre parce que je me dis on est mal, quoi. Là, on a demandé au décorateur de trouver des choses dans le studio. Il a tout mis en vrac. Enfin,
il a tout mis.
Il a tout mis. Il s'est dit, tiens, j'ai 200 mètres carrés d'entrée. Parce que c'est toujours les entrées, elles sont monumentales. Puisqu'il y a
alors, pas attendez, il a un nom quand même. C'est Harry Singh. C'est Harry Singh. Il a un vrai nom. C'est une vraie personne qui a donné son nom. Il n'a pas fait de manière anonyme. Donc, disons son
non,
nom.
Et puis, bah, Harry Singh, on lui a dit, mais attends, le mec, c'est un big boss. Il a de l'art au mur. Dépêche-toi, trouve un tableau. Bon, bah, la Joconde n'était pas disponible. Il a fait un check et un point d'interrogation rouge. Enfin, c'est horrible. Mais comme tu dis, c'est à la limite de nous faire sortir du film, quoi.
Ouais, oui. Ah, c'est trop. Et au milieu, cool Johnny Lever, du coup.
Du coup, teasing pour le prochain épisode, parce que j'ai pris un peu d'avance, comme vous le savez.
Quel bon élève, ce Mathieu.
On n'a pas le cul sorti des ronces, parce que King Uncle, c'est du même tonneau, hein, au niveau des décors.
Voilà. Ah bien. Bon, et Johnny Lever, alors?
Oui, bah Johnny Lever, bah écoute, ce pauvre Johnny, il fait ce qu'il peut, j'ai envie de te dire. Voilà, on lui donne de la merde, il peut pas la transformer en or, c'est comme ça. Non, je pense que ce qui se passe avec ce pauvre Johnny, c'est qu'il a choqué. Voilà, il a choqué sur le film. Parce que Johnny Lever, dans une comédie, dans un cadre comique, peut s'épanouir. Voilà.
Tu choisis tes mots.
Je voudrais pas qu'il vienne sonner chez moi. Hein. C'est pour ça. Donc je pense qu'il peut s'épanouir, il peut exister. Et puis je pense que c'est plus, voilà, c'est un homme de sport co. Voilà, il aime participer. C'est le groupe, ça l'intéresse, etc. Il peut faire on peut faire des blagues ensemble, etc. Voilà. Sauf que là, il a tout le poids de l'humour dans un film qui n'en a pas besoin. Il n'a pas besoin d'humour, ce film. Voilà. Il y a, le réalisateur a décidé qu'en effet, il fallait un peu des respirations entre-temps, dans cette espèce d'apesanteur. Mais alors qu'en fait, non, pas du tout. C'est pas nécessaire. Et le pauvre Johnny, il fait ce qu'il peut. Voilà, avec un personnage qui est quand même, excusez-moi, très très mal écrit. Voilà, c'est pas seulement lui qui joue mal, c'est catastrophique. Son personnage, il sait pas faire le thé, il sait rien faire en fait. C'est un major d'homme qui sait rien faire, mais qui par contre essaie toujours de dire t'inquiète. Voilà, bref. Et je pense que, comment dire, la responsabilité beaucoup trop lourde de ce comic relief qui lui pèse sur les épaules à lui seul, bah il s'est effondré, le pauvre Johnny. Voilà, donc t'inquiète, Johnny, moi je suis avec toi, j'ai compris, j'ai vu. Voilà. Par contre, on aurait bien aimé te voir un peu moins quand même, parce que t'as un peu pété l'ambiance, quoi.
Mais je pense que les deux réalisateurs sont quand même d'immenses fans de Johnny Lever, parce que Abbas Mustan, quand là j'ai leur filmographie sous les yeux, et je me rends compte qu'il est dans presque tous leurs films. Darar, Soldier, Bacha, Race, que ce soit du polar, de l'action, de la comédie, ils le foutent partout, tout le temps. Et il faut pas faire ça, hein.
Non, mais il faut voir ça comme un gris-gris, je pense. C'est un, tu vois, c'est un porte-bonheur, Johnny.
C'est
Lever.
Un gimmick. Voilà. Oui, c'est un colis fiché.
Un colis piégé, ouais.
Le Rob Schneider pour Adam Sandler, tu vois. Quoi.
Mais t'as complètement raison, François. C'est totalement ça. C'est le Rob Schneider de l'histoire du cinéma. Indien.
Non, mais là, c'est que c'est long, en fait. Ces scènes à lui sont interminables.
Ouais, ouais.
J'ai le doigt qui s'approche dangereusement d'essayer de faire de l'avance rapide, alors que je sais qu'il faut pas, quoi. Mais bon, l'écouter dire « Ah, j'ai oublié !»« Non, je sais pas. Attends, je... » C'est hyper long. Et toi, tu
la
dis,
scène
mais
du téléphone.
Ah, le téléphone, il a oublié ce qu'on lui a demandé. Enfin, oh ouais, non, c'est...
Ah,
moi,
mais là, faut apprendre à lâcher prise, là, les amis. Là, je pense qu'il y a un défi spirituel pour vous, hein. Genre, si vous arrivez à imaginer, je sais pas, un film entier, enfin vraiment, imaginez 3 heures de Johnny Lever et vivez le moment, enfin vivez-le vraiment, sentez votre corps, sentez chacun de vos membres, concentrez-vous sur votre respiration. Je pense qu'il a beaucoup à nous apprendre, Johnny Lever. Je pense que vous êtes resté trop à la surface.
T'étais pas aussi carpe diem il y a 5 ans, hein, donc moi j'ai réécouté l'épisode et...
excuse-moi d'avoir mûri, Mathieu.
Elle va mettre un poster.
Justement, Anouk, t'as vécu une expérience très bizarre parce que tu as revu le film en l'ayant partiellement oublié. Enfin,
non, pas partiellement, mais franchement,
très généreusement oublié.
C'est très dommage de finir par moi, mais bon, c'est mal organisé
mais
sur
non,
ce coup-là.
Non, mais c'est...
Parce que j'ai vécu une expérience existentielle terrifiante.
Bah oui.
Je ne mâcherai pas mes mots, c'est-à-dire que j'ai revu Bazigar. Alors, je pense que je l'avais déjà vu en plus avant Cajol parce que j'avais le DVD et tout. Donc, c'est sans doute pour la troisième fois. Je l'ai revu hier soir. Je ne me souvenais pas d'une minute. Les chansons me disaient quand même quelque chose, bien sûr. Mais, alors, c'est compliqué. Je digresse, excusez-moi. J'étais pas très concentrée. Mais à la fois, l'oubli, pour moi, c'est très, très... c'est quelque chose qui m'a beaucoup longtemps traumatisée, le fait d'oublier les choses, d'avoir une mauvaise mémoire. Et en même temps, je ne peux pas dire que ce n'est pas une bénédiction, quelque part, parce que ça permet une résilience incroyable. Et là, ça permet de revoir un film de 3 heures avec le même plaisir, la même joie, la même surprise qu'au premier jour. Ma mère, que je salue, qui nous écoute, que j'embrasse, a un peu la même chose avec les livres. Elle relit des livres et puis du coup, elle a toujours le même plaisir parce qu'elle oublie les intrigues. Et là, c'était ça pendant 3 heures, alors que Cajol, c'était pas il y a 50 ans. Enfin, c'était vraiment... voilà. Donc, c'était un peu terrifiant et en même temps assez plaisant. Et ce qui m'a beaucoup amusée, donc j'ai réécouté, parce que tu nous as dit de réécouter, ce qui est toujours un plaisir de réécouter sa propre voix. Ne faites pas ça chez vous, c'est vraiment horrible. J'ai réécouté et c'était très drôle parce que bon, on sentait que j'étais beaucoup plus à fond au début de Cajol, j'étais pas en train de déménager, voilà. J'étais très concentrée, je voulais vraiment convaincre le monde entier de regarder du cinéma indien. Mais par contre, j'ai noté exactement la même chose. Donc, j'entendais quelqu'un avec une voix très bizarre, qui n'a rien à voir avec ma voix, qui avait noté les mêmes choses que moi, mais de manière un petit peu plus précise et tout. Donc, j'ai noté le premier plan qui montre une meuf, il y a le cul dans le jean, je m'étais dit c'est un petit peu sexiste. Ben voilà, je me suis redit ça. J'ai noté Barbie Shah Rukh Khan, la même expression revenue 3 ans plus tard, Barbie Shah Rukh Khan. C'était très étrange comme impression. Et ce qui m'a fait beaucoup rire, c'est que pendant l'émission sur Kajol, je tenais absolument à parler de Shah Rukh Khan. Et là, je n'ai fait que regarder des Kajol. Je me disais quand même, elle est incroyable, elle est dans plein d'énergies différentes, et puis surtout de la voir tiltée à deux à l'heure, tiltée au fur et à mesure du film. La caméra s'arrête sur elle, elle plisse un peu les yeux en mode quelque chose de bizarre se trame, et ça dure pendant une heure comme ça jusqu'à ce que bon, elle finisse par un peu comprendre ce qui se passe. Voilà, donc voilà, c'est évidemment, je n'en rajoute pas sur ce qu'ont dit les gens ont raison, tous mes prédécesseurs ont bien résumé la chose. Je ferai un petit clin d'œil. Mathieu, tout à l'heure, tu avais ta phrase sur le citron, le curcuma qui n'avait pas de sens. J'en ai noté une qui vient de ce film. Ah. Tu es comme un handicapé qui aurait besoin d'une canne, mais qui n'a pas de main pour s'en saisir. Voilà, okay. Elle m'a marqué celle-là, je l'ai notée. Je ne sais plus le contexte, mais elle m'a fait un peu rire. Voilà, non, sinon, après, on a toujours le charouk intense, hein, qui est intense dans son amour, mais là, intense dans sa psychopathie. Mais il y a plusieurs personnages, quoi. Donc, il y a un tatouage au bic, notamment, que j'ai noté sur la poitrine. Ça, oui, il se tatoue le nom de la meuf. Voilà. Kajol, qui regarde la caméra, qui cabotine. J'ai trouvé qu'elle avait une énergie très Emma Stone, pour les jeunes qui nous écoutent, qui aiment bien Emma Stone. Je sais pas, je l'ai senti très investi dans son truc, très pauvre créature dans son rôle.
D'accord. Non, mais écoute, je trouvais ça pertinent de finir avec toi, justement, pour cette expérience au-delà du corps et des temporalités. et ma foi, j'étais convaincu, j'étais intéressé. Merci pour ça.
Ah, et Bazigar, ça veut pas dire le parieur, François, ça veut dire le jongleur. Avec 4 ans qu'on en parle, à un moment, il faut... Le
magicien.
Alors, gambler, ouais, c'était vraiment... Et elle reprend la traduction gambler, Anupama Chopra reprend la traduction gambler.
Bah, à la limite, le joueur, mais vraiment, si on garde le côté « il perd avant de gagner », il y a un côté... Il y a un côté jeu, effectivement, un côté poker. Ouais. Oui, mais moi, j'aime bien ce côté jongleur parce que, justement, il y a le déséquilibre, tu vois. Tu crois que tu dois lâcher la balle pour la rattraper, en fait. Du coup, c'est ça que j'aime bien dans la traduction jongleur.
Jongleur, ok. Non, mais tu gagnes, rhétoriquement, sur tous les plans, tu gagnes. Ah. Ben, un immense merci à vous toutes et tous. On se retrouve je ne sais quand pour de nouvelles découvertes. Mathieu a pris un peu d'avance, comme il l'a dit. Il y a la découverte d'un de mes mauvais acteurs préférés de Bollywood, Sonny Deol, la prochaine fois. Voilà, je ne vous dis que ça. Merci à vous, à la prochaine.
À bientôt,
merci.
À la prochaine.
Salut.